Chapitre 21. Puis, levant les yeux, le Seigneur vit quelques-uns de ses riches qui jetaient avec ostentation leurs dons dans le trésor du temple, et parmi ceux-ci une pauvre veuve qui y jeta ses deux pites. Il ne nous faut pas séparer dans notre esprit ces premiers versets du chapitre 21 des deux derniers versets du chapitre précédent. La veuve était vraisemblablement une de celles dont la maison avait été dévorée. Cependant, au lieu de se plaindre, elle jette ses deux dernières pites dans le trésor du temple. Dans ces circonstances, son don était vraiment très grand, comme le déclare le Seigneur. Elle va jusqu'à l'extrême limite, elle jette tout ce qu'elle avait. Il ne nous faut pas non plus séparer cet incident touchant des versets qui suivent, en particulier du verset 6. La veuve exprime sa piété envers Dieu en jetant ses deux pites dans la collecte pour l'entretien des bâtiments du temple. Pourtant, le Seigneur poursuit en prédisant la destruction totale de celui-ci. Le sanctuaire était déjà mis de côté parce que le Seigneur était là. Dieu était en Christ, non pas dans le temple d'Hérode. Dans sa compréhension des choses, cette veuve était, comme nous le dirions, en retard sur son temps. Pourtant, cela n'amoindrit pas l'approbation du Seigneur quant à son offrande. Il fait vraiment cas de la consécration totale d'un cœur, même si l'expression n'en est pas marquée par une parfaite intelligence. Cela devrait nous être un grand encouragement. Luc nous donne maintenant le discours prophétique du Seigneur. Il rapporte la partie de celui-ci qui répond spécialement à la question des disciples donnée au verset 7. Comme le montre le récit de Matthieu, leur question et la réponse du Seigneur comportaient, toutes deux, beaucoup plus que ce que rapporte Luc. Ici, la question porte sur le temps de la destruction du temple et sur le signe qu'il annoncera. La réponse se divise en deux parties. Versets 8 à 24, les événements qui amèneront la destruction de Jérusalem, foulée aux pieds par les Romains. Versets 25 à 33, l'apparition du Fils de l'homme à la fin du siècle. Il est très remarquable que le Seigneur présente le sujet tout entier, non avec une profusion de détails intéressant notre curiosité, mais comme des prophéties qui sont un cri d'avertissement et qui apportent des enseignements de la plus haute importance pour ses disciples. Tout est exposé de façon à faire appel à nos consciences et non à notre curiosité. La première partie du discours, versets 8 à 19, est consacrée à des enseignements adressés aux disciples en personne. Le Seigneur formule certes bien des prophéties. Il prédit, premièrement, l'apparition de faux Christ, deuxièmement, des guerres et des séditions, en même temps que des événements extraordinaires dans le monde physique environnant, troisièmement, l'apparition d'oppositions et de persécutions violentes allant même jusqu'à la mort. Mais dans chacun des cas, les disciples sont mis en garde par les avertissements du Seigneur. Ils ne devront pas un instant se laisser tromper par de faux Christ, ni les suivre. Ils ne devront pas se laisser effrayer par des flambées de violence des hommes, ni s'imaginer que ces commotions signifieront que la fin sera tout aussitôt. Ils devront accepter la persécution comme occasion de témoignage, et devant leurs adversaires, ils ne devront pas se reposer sur une défense préparée à l'avance, mais sur la sagesse surnaturelle qui leur sera accordée le moment venu. Le but du verset 18 est évidemment de faire comprendre de quelle manière personnelle et intime Dieu prendrait soin d'eux. Les derniers mots du verset 16 montrent que cela ne veut pas dire que tous échapperaient. Mais même si on les faisait mourir, ils seraient tous au bénéfice de la résurrection. En endurant l'épreuve avec patience, ils arriveraient au but, soit dans la vie, soit dans la mort. Cela semble être le sens du verset 19. Nous voyons dans les actes comment ces choses se sont accomplies dans le cas des apôtres. Puis, au verset 20 à 24, le Seigneur prédit la désolation de Jérusalem. Rien n'est dit ici quant à l'instauration de l'abomination de la désolation, car cela ne doit arriver qu'à la fin des temps des gentils. Toutes les choses que le Seigneur mentionne furent accomplies lorsque Jérusalem fut détruite par les Romains. C'est alors que la ville fut environnée d'armées. C'est alors que ceux qui avaient cru aux paroles de Jésus s'enfuirent effectivement vers les montagnes et échappèrent ainsi aux horreurs du siège. C'est alors que commencèrent pour les Juifs des jours de vengeance qui ne prendront fin pour eux que lorsque toutes les choses prédites seront accomplies. C'est alors que débuta la longue captivité qui s'est poursuivie et se poursuivra, avec Jérusalem foulée aux pieds des nations, jusqu'à la fin des temps des nations. Ces temps débutèrent lorsque Dieu suscita Nebuchadnezzar, qui déposséda le dernier roi de la lignée de David, et ils se termineront par l'écrasement de la domination des nations à l'apparition de Christ. En conséquence, le verset 25 nous transporte directement jusqu'au temps de la fin et parle de choses qui précéderont de peu sa venue. Il y aura des signes dans le ciel et angoisse et perplexité sur la terre. La mer et les flots, symbolisant des foules dans un état de trouble et d'agitation violent. C'est pourquoi les hommes rendront l'âme de peur et à cause de l'attente des choses qui viennent. Devant l'état de choses qui règne sur la terre au moment où nous écrivons ces lignes, il n'est pas difficile de concevoir les événements que le Seigneur prédit ainsi. C'est le temps où Dieu ébranlera et les cieux et la terre, comme Aggé l'a prophétisé, et où seules demeureront les choses qui ne peuvent être ébranlées. Aggé 2, verset 6. Tout ceci conduira à l'apparition publique du Fils de l'homme avec puissance et une grande gloire. Le jour de sa pauvreté sera passé, comme aussi le jour de sa patience. Et le jour de sa puissance, dont parle le psaume 110, sera là dans sa plénitude. Avant sa venue, les cœurs des inconvertis seront remplis de terreur. Quand il sera venu, leurs pires craintes seront réalisées, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Apocalypse 1, verset 7. Mais pour ces saints, la venue du Seigneur revêtira un autre aspect, comme on est heureux de le lire au verset 28. Pour eux, c'est la rédemption finale, lorsque toute la création sera délivrée de l'esclavage de la corruption. Les choses étant ainsi, les premiers signes de sa venue doivent nous remplir d'une heureuse espérance. Nous devons regarder en haut, car ce qui vient après, événement de toute importance, doit procéder de la droite de Dieu où le Seigneur est assis. Nous devons lever nos têtes, bien loin de les baisser par accablement ou par crainte. Les choses mêmes qui effraient le monde doivent remplir le cœur du croyant d'une sainte espérance. Ensuite vient la courte parabole du figuier. Remarquons qu'elle est présentée comme parabole, non pas comme simple illustration. Le figuier représente les Juifs en tant que nation. Depuis des siècles, ils sont en état de mort en tant que nation. Et quand enfin il y aura des signes d'une renaissance nationale d'Israël et également des signes d'une renaissance d'autres arbres de nationalisme ancien, nous pourrons reconnaître que l'été millénaire est proche. Note du traducteur. Cette étude a été écrite avant 1948, qui est la date de la fondation de l'État d'Israël. Jusqu'à ce que ce moment arrive, cette génération ne passera point. Par « cette génération », le Seigneur signifie, croyons-nous, cette génération perverse, en qui il n'y a point de fidélité, dont Moïse a parlé en Deutéronome 32, versets 5 et 20. Quand le royaume sera établi, cette génération-là sera passée. La prophétie du Seigneur, que Luc relate brièvement, se termine par la déclaration solennelle que ses paroles sont certaines et véritables. Toute parole qui tombe de ses lèvres est chargée de sens, chargée de l'annonce d'un événement à venir, et elle a plus de stabilité que les cieux et la terre. Ainsi, le verset 33 nous présente la pensée frappante que les paroles de sa bouche ont une permanence que n'ont pas les œuvres de ses mains. Le Seigneur termine en faisant une nouvelle fois appel à la conscience de ses disciples et à la nôtre aussi. Il n'y a pas de doute que ces trois versets, 34 à 36, s'appliquent spécialement aux saints qui seront sur la terre immédiatement avant son apparition, mais ils interpellent aussi le croyant d'aujourd'hui. Une multitude de plaisirs s'offre à nous, et nous pouvons facilement en user à l'excès et nous laisser accaparer. D'autre part, il n'y a jamais eu de danger plus nombreux et plus grand à l'horizon, et nos cœurs peuvent être écrasés par de sombres pressentiments, si bien que nous perdons de vue le jour qui approche. Il se peut que nous soyons tellement occupés des faits et gestes de dictateurs et du cours des événements du monde, que la venue du Seigneur s'estompe dans nos cœurs. Prenons pour nous cette parole, « Veillez donc, priant en tout temps. » Verset 36. Alors nous serons tout à fait vigilants et prêts à accueillir le Seigneur lorsqu'il viendra. Dans les derniers versets du chapitre, Luc nous rappelle que le Seigneur, qui avait ainsi prédit son retour, était encore le rejeté. De jour, pendant cette dernière semaine, il annonce fidèlement la parole de Dieu. De nuit, n'ayant pas de chez soi, il demeure dans la montagne des Oliviers.